Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G en France se sont terminées le 1er octobre. Elles ont rapporté à l'État près de 2,8 milliards d'euros. Le gouvernement est favorable au déploiement de ce nouveau réseau en espérant qu'il permette de doper l'économie. Les opposants à la 5G, eux, dénoncent une technologie potentiellement dangereuse pour la santé, inutile et dont le bilan carbone serait déplorable. Qu'est-ce que la 5G ? Pourquoi son arrivée en France suscite une polémique ? Code Source reprend cette histoire du début avec deux journalistes du Parisien, Damien Licata Caruso et Nicolas Béraud. Damien Licata Caruso, vous couvrez les nouvelles technologies pour le Parisien. Pour bien comprendre la polémique qui entoure la 5G, il faut remonter à 2015. Seulement 3 ans après le lancement de la 4G en France, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, autorise l'expérimentation d'une nouvelle technologie de communication, la 5G.
Il faut bien garder en tête que chaque génération de réseaux mobiles, donc la 4G et la 3G avant elle, elles ont une durée de vie d'à peu près d'une vingtaine d'années. Donc là, en 2015, on commence déjà un peu à se projeter. On regarde ce que peut faire la 5G. Les opérateurs, eux, achètent du matériel compatible avec la 5G et commencent en fait des phases de test dans différentes villes. Il y en a eu un peu de partout en France, dans l'Est, dans le Sud. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer si la 5G change quelque chose.
Concrètement, c'est quoi la 5G ?
La 5G, ça représente la 5e génération d'Internet mobile. Il y a eu avant la 2G, c'est-à-dire que la 2G, on pouvait envoyer un texto. Avec la 3G, on pouvait y rajouter une image ou une photo. La 4G, elle permettait d'avoir un vrai Internet mobile avec, par exemple, du streaming vidéo, des petits jeux vidéo, comme si on était à la maison sur sa fibre. Mais ce n'était pas encore très, très concret. La 5G, ça permet en fait de connecter tous les appareils dans un rayon assez diffus. Pour l'instant, elle ne s'adresse pas forcément au grand public. La 5G, elle va s'adresser en priorité aux industriels. Ça va permettre de connecter des usines, ça va permettre de connecter des voitures, ça va permettre de ne pas avoir de délai entre les connexions, d'être beaucoup plus puissante et d'avoir un Internet beaucoup plus rapide.
Et à part sa puissance, est-ce qu'il y a d'autres innovations ?
La 5G est beaucoup plus directive, c'est-à-dire elle va fonctionner un peu comme une voiture. Les nouvelles voitures, en ce moment, vous arrivez à un feu, le moteur va s'éteindre et ne va redémarrer qu'une fois qu'il est sollicité. La 5G, c'est un peu pareil, c'est le système de stop and go d'une voiture. Elle va être sollicitée et elle va s'activer uniquement quand l'utilisateur en a besoin. Donc là, c'est une vraie révolution.
Pour atteindre ce résultat, est-ce que les opérateurs doivent changer des infrastructures comme des antennes relais ?
Pas forcément. La plupart des opérateurs ont déjà des antennes assez neuves, assez récentes. Ils vont devoir en créer quelques-uns pour quadriller la France. Mais en gros, ils peuvent mettre à jour à distance pour que cette antenne-là se connecte en fait au nouveau réseau.
Good morning, CES. I'm very excited to be here today with you. We are incredibly excited about what new technology can do for us. The 5G future
En 2017, le CES de Las Vegas, le plus grand salon au monde consacré à l'innovation technologique, déroule le tapis rouge à cette nouvelle technologie. À ce moment-là, la 5G est présentée par les industriels du secteur comme vraiment le futur.
Oui, parce que le CES de Las Vegas, c'est le grand rendez-vous des appareils, de l'électroménager, de tout ce qui va pouvoir se connecter. Et pour pouvoir se connecter, ils ont besoin d'un réseau mobile, donc de la 5G. Pour eux, la 5G, c'est vraiment le paradis. Ça va permettre de mettre en action des objets connectés et enfin de passer à une autre génération d'Internet.
À ce moment-là, la France n'en est qu'aux phases de test sur la 5G. En Asie, tout va plus vite. Nous sommes en février 2018 et à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, la Corée du Sud veut frapper un grand coup.
Oui, ça représente une vitrine technologique pour le Made in Korea. Donc ils la mettent en action. On peut suivre une course de bobsleigh en ultra HD en direct. On peut accéder à des bus et des navettes sur le village olympique qui sont complètement sans chauffeur. Autonome, c'est une vraie concrétisation de la 5G.
On en vient à ce début d'année 2020. Plusieurs pays comme la Chine ou la Corée du Sud ont accueilli à bras ouverts cette nouvelle technologie. Mais en France, le déploiement de la 5G prend plus de temps. Pour quelles raisons ?
La différence avec l'Asie, c'est que nous n'avons pas d'équipementier télécom, c'est-à-dire qu'on ne produit pas des antennes en France. On va devoir les commander. Ensuite, les opérateurs, pendant des années, avaient déjà accumulé du retard sur la 4G qu'ils ont essayé de rattraper, ce qui n'a pas forcément été suivi d'effet. Et ensuite, on se retrouve à avoir des opposants qui se réveillent un peu tard parce que le débat aurait pu avoir lieu il y a peut-être 2 ans, quand on a commencé vraiment à parler de la 5G. Des associations comme Agir pour l'environnement, Priartem, qui lutte contre les ondes électromagnétiques, et qui ont décidé de déposer un recours contre le Conseil d'État afin de repousser le déploiement de la 5G pour avoir un vrai débat sur ses conséquences.
Qu'est-ce qui est dangereux pour les opposants de la 5G ?
Les opposants s'inquiètent du fait que la 5G, qui est censée être plus puissante, va générer beaucoup plus d'ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, on connaît un peu leurs effets sur le corps humain. On sait que l'onde électromagnétique, quand elle est trop forte et quand elle est trop proche du corps humain, elle va commencer à brûler les tissus. Brûler les tissus, c'est-à-dire aussi modifier le corps humain et potentiellement créer des cancers.
Les opposants s'inquiètent aussi de la consommation énergétique que peut engendrer la 5G et donc de son impact sur l'environnement ou encore de la sécurité de ce futur réseau. Toujours en janvier de cette année, les experts de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, rendent un rapport préliminaire sur la 5G. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ils disent qu'ils ne savent pas ce que peut avoir comme impact la 5G parce qu'il manque de données scientifiques. C'est-à-dire que la 5G a été testée uniquement en laboratoire. On ne sait pas quels sont ses effets sur le corps humain, sur les organes. La 5G, en fait, produit des ondes électromagnétiques. On connaît un peu leur impact sur les générations précédentes, mais on ne sait pas si, avec la 5G qui est censée être plus puissante, elle va avoir un vrai impact sanitaire.
Pourtant, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, est confiant, tout comme le gouvernement.
Oui, dès le mois de mars, l'ARCEP décide de mettre en vente les fréquences. Les fréquences, ça va être les blocs qui vont être utilisés par les opérateurs pour fournir à leurs clients de la 5G. On parle alors d'un peu de retard, mais finalement, on essaie de le rattraper et on fixe un calendrier très strict qui va se poursuivre jusqu'à l'automne.
Nicolas Béraud, vous travaillez au service politique du Parisien. À partir de la mi-mars, début du confinement, le sujet de la 5G disparaît des journaux télévisés et pourtant, il réapparaît dans l'actualité quelques semaines plus tard. Le 3 mai, le Parisien publie une enquête sur ceux qui s'attaquent aux antennes relais.
Oui, les forces de l'ordre, entre le 1er avril et début mai, vont recenser environ une vingtaine d'antennes relais prises pour cible un petit peu partout en France.
Plus d'un mois après l'incendie, cette antenne porte toujours les stigmates du feu. 4 antennes relais ont été détruites à Toulouse.
Ce relais de télévision et de téléphonie dessert une partie de l'agglomération grenobloise. Il est hors d'usage pour plusieurs semaines.
La gendarmerie ouvre des enquêtes, mais c'est très compliqué d'arriver jusqu'aux initiateurs et aux auteurs de ces faits. Certains de ces sabotages semblent clairement liés à des groupes, des individus de l'extrême gauche. Par exemple, on voit sur Internet des sortes de modes d'emploi, comment s'en prendre à une antenne relais, ou des messages qui circulent. Leur souhait est de renouer avec l'action directe et selon eux, s'en prendre à des antennes relais fait partie de leur mode d'action privilégié.
Damien Licata-Caruso, en juin, vous rencontrez Nicolas Guérin, le nouveau président de la Fédération française des télécoms. Il est inquiet, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Que pour la première fois, il y a des employés, d'après lui, qui ont été attaqués verbalement et physiquement alors qu'ils venaient réparer une antenne. On s'en prend carrément à des personnes et ça, ça l'a profondément choqué.
Nicolas Béraud, le 21 juin, les 150 citoyens qui étaient réunis au sein d'une convention remettent leur rapport sur le climat.
150 citoyens qui avaient été sélectionnés par tirage au sort pour intégrer cette convention citoyenne sur le climat, ils vont rendre leur rapport avec 149 propositions. Parmi les propositions, on retrouve un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant qu'on ait davantage d'études, notamment sur l'impact sur la santé environnementale.
Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie.
Une semaine plus tard, Emmanuel Macron, il va dévoiler les propositions qu'il retient et sur les 149, il en retient 146, dont le moratoire sur la 5G.
C'est la réponse à laquelle je m'étais engagé et le lancement d'un nouveau processus.
Quelques jours plus tard, le 30 juin, à l'Assemblée nationale, François Ruffin, député France Insoumise, interpelle le gouvernement sur le sujet.
Il est un petit peu troublé que le chef de l'État, que le gouvernement n'ait pas parlé de la 5G, alors que le processus des enchères doit démarrer à la rentrée de septembre. Et donc, il interpelle la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher.
Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non ?
Quelle est la réponse du gouvernement ?
La réponse d'Agnès Pannier-Runacher au nom du gouvernement, elle est très claire. Non, le processus n'est pas gelé. Elle cite plusieurs pays étrangers.
Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme la Chine.
Qui se sont déjà engagés vers la 5G et elle dit que la France va suivre le mouvement.
Oui, nous allons lancer les enchères de la 5G.
Et qu'il y aura bien les enchères à la rentrée.
Même au sein du gouvernement, la 5G fait débat.
Elle fait débat, il y a plusieurs ministres qui sont plutôt réticents, par exemple la ministre de l'Environnement Elisabeth Borne et celui de la Santé Olivier Véran, ils ont écrit une lettre au Premier ministre lui demandant d'attendre le rapport définitif de l'ANSES. Et puis en face, à Bercy, Bruno Le Maire, Cédric Coe qui est secrétaire d'État au numérique, Agnès Pannier-Runacher, eux ils sont plutôt partisans de la 5G, ils considèrent que du point de vue technologique, de l'image de la France et de l'innovation, c'est important.
Le 28 juin, le second tour des municipales voit les écologistes rafler plusieurs grandes villes comme Lyon, Strasbourg ou encore Bordeaux. Ils ne tardent pas à s'emparer du débat autour de la 5G.
C'est vrai que dans quasiment toutes ces villes, les élus écologistes ils sont plutôt opposés à la 5G. Ils considèrent qu'il y a potentiellement des dangers sur la santé publique, sur l'environnement, etc. Et ils demandent par principe de précaution d'attendre qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait pas d'impact et pas d'effet avant de se lancer dans la 5G.
Le dimanche 5 juillet, c'est le maire écologiste Éric Piolle, réélu à Grenoble pour un second mandat, qui s'exprime sur le sujet.
Il est volontiers provocateur, hein. Il va dire cette phrase qui a beaucoup amusé.
Est-ce que vous ne craignez pas, en disant ça, d'incarner cette écologie anti-progrès, Éric Piolle ?
Je sais pas, moi, est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD ?
Par là, ce qu'il voulait dire, c'est que, d'après lui, pour le grand public, la 5G n'apporte pas grand-chose de supplémentaire par rapport au réseau qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est une façon d'illustrer un petit peu son opposition.
Nicolas Béraud, est-ce que les maires ont le pouvoir d'interdire la 5G dans leur ville ?
Non, le Conseil d'État s'était penché sur la question en 2011 et il avait été très clair, un maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'antennes relais, donc du coup à la 5G, au nom du principe de précaution. De ce point de vue-là, la jurisprudence, aujourd'hui, elle est plutôt claire. Donc ils n'ont pas forcément un pouvoir légal, mais ils ont quand même du poids politique et leur parole peut être entendue.
Le 13 septembre, près de 70 élus issus de la gauche et de l'écologie, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot, publient une tribune dans le Journal du Dimanche. Qu'est-ce qu'ils demandent ?
Ce qu'ils demandent, c'est plusieurs choses. Déjà, un moratoire sur la 5G, effectivement. Ils demandent aussi qu'on organise un débat sur la 5G.
On a des études qui arrivent sur l'impact sanitaire, des études qui arrivent sur l'impact environnemental. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'attendre ces études pour savoir.
Et puis voilà, il demande aussi à ce que priorité soit mise, en tout cas à court terme, sur le développement de la 4G. On sait qu'il y a des zones blanches en France qui sont de moins en moins nombreuses, mais il y en a toujours où on arrive mal à se connecter à la 4G sur son téléphone, où le réseau ne passe pas aussi bien que dans les grandes villes.
Et le lendemain soir, le président Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les entrepreneurs de la French Tech, les startups du numérique.
Un parterre qui est plutôt acquis à la cause de la 5G, de l'innovation. Emmanuel Macron, il va annoncer que la France va prendre le tournant de l'innovation.
Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
Les opposants, il va les associer aux Amish. Les Amish sont une communauté aux États-Unis qui vit avec des habitudes et des modes de vie anciens du 19e siècle. Donc évidemment, c'est revendiqué de leur part. Ils ne sont pas du tout dans les préoccupations technologiques dont on parle actuellement.
Clairement, le but, c'est de ringardiser les opposants à la 5G quand ils disent ça ?
C'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir, c'est effectivement les ringardiser, les associer à quelque chose de rétrograde, tandis que eux, Emmanuel Macron, la majorité, seraient ceux qui parviennent à concilier préoccupations écologiques et innovations technologiques dont le pays a besoin pour l'avenir.
Le 15 septembre, un rapport demandé par le gouvernement dans le cadre du déploiement de la 5G en France est rendu public.
Ce rapport, le gouvernement l'avait demandé avant l'été. Quatre organismes officiels se sont penchés sur la question durant tout l'été. Ils ont épluché un petit peu toutes les études, tout ce qui est déjà connu sur la 5G. Et leur conclusion tient quelque part en deux points. C'est qu'il n'y a pas d'effet néfaste avéré à court terme tant qu'on respecte les valeurs limites de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et puis à long terme, c'est compliqué de savoir, mais il n'y a pas d'effet avéré à ce stade.
Ce rapport est évidemment très loin d'avoir refermé le débat sur la 5G en France. On va en entendre parler beaucoup dans les mois qui viennent, Nicolas Béraud ?
Forcément, pour deux raisons principales. La première, elle est sur le plan sanitaire et environnemental. Tout le monde est un petit peu suspendu au rapport définitif de l'ANSES qui est attendu au premier semestre, même peut-être au premier trimestre, au mois de mars 2021. Et puis au niveau politique, les écologistes et plus globalement les opposants à la 5G, ils vont évidemment pas arrêter de faire valoir leurs revendications. Les écologistes, ils viennent de gagner un groupe au Sénat, donc quelque part, leur voix va encore davantage porter que jusque-là. Donc évidemment, ce sera l'un des sujets très importants des mois à venir.
Merci à Damien Licata-Caruso et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo, production Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.